Bonjour, bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle émission d'Un air de vie. Donc votre émission qui traite toujours des thématiques de l'environnement à l'échelle locale, donc dans votre ville préférée, la ville d'Évreux. Aujourd'hui, nous avons donc une thématique qui va s'appeler le défi famille. Alors, qu'est-ce que le défi famille? De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? On parle aussi de transition énergétique. Nous avons plusieurs invités aujourd'hui sur le plateau. Mais avant tout, nous allons commencer par de l'actualité. Avec aujourd'hui, nous ne sommes pas un trio. Encore une nouvelle fois, j'allais dire. Et oui, pas de JFK.
Nous sommes encore un duo, mais j'ai changé de partenaire. Après une émission avec Jérôme.
Où j'étais absent, ouais. Et parti du côté de Nantes nous écouter. Donc même s'il est loin, il est avec nous. Continue.
Jérôme est dans le sud de la Loire. Donc, une émission sur le défi familial qui a été organisé par le GEA. On va commencer par parler d'actualité. Alors, un premier point sur l'actualité. Cette semaine, les premiers résultats sont tombés pour l'année 2013. Et 2013 a été une première année au niveau de la chaleur. 2013 est la sixième année la plus chaude depuis 1850. Avec 2007. Cela confirme cette tendance au réchauffement climatique et pour recommencer l'année 2014, le mois de janvier 2014 a été le mois le plus chaud de l'année.
Le plus chaud depuis le début des mesures, depuis 1900. Une température moyenne de 2,7% au-dessus de la normale et pour tout rajouter, des pluies de 40% supérieures aux normales saisonnières. Donc on peut encore observer, pour ceux qui en doutaient, les fameux effets de ce réchauffement climatique.
Ok, alors moi aussi j'ai une petite actualité, je t'avouerai que j'ai vraiment beaucoup hésité de quoi vous parler en fait en actu, il y a tellement de sujets. J'avais envie un peu de parler des étoiles aussi, parce que je sais pas si vous étiez au courant, il y a une étoile qui est morte il y a un peu plus de 12 millions d'années.
Oh non.
Et si. Et en fait, cette étoile nous est apparue il y a quelques jours. Là, on assiste un petit peu encore à sa deuxième fin, on peut le dire. Et c'est une lumière que vous pouvez voir apparaître avec la jumelle du côté de la Grande Ourse. Donc voilà, c'est une étoile qui est morte. Donc pour qu'on puisse avoir sa lumière d'étoile morte, c'est forcément une étoile qui s'est transformée en supernova. Donc une big explosion, une explosion telle que toute la puissance en une seconde a été dégagée, bien plus que l'énergie même du soleil qui nous éclaire depuis tout ce temps. Donc ça, c'est des petites choses plutôt sympathiques. Après, en même temps, on voit d'autres choses. Aussi, j'ai vu des sujets d'actualité au niveau de la science. On a parlé ensemble, Fred, la dernière fois, en parlant de nourriture. On parlait d'imprimantes 3D, où nous avons des nouvelles technologies vraiment high-tech, très étonnantes. On arrive à des nouveaux produits, mais ce qui est marrant, c'est que ça pose toujours la question, en fait, de fond. C'est même, on ne sait pas pourquoi, des fois, on invente des technologies et surtout vers quoi ça mène. Car en fait, on essaie de trouver des alternatives, mais changer fond en fait du système. Et on est toujours dans un process de consommation. Car au final, que ce soit pour la viande de synthèse, je ne sais pas si vous êtes au courant à propos de cette viande de synthèse, c'est quand même une révolution technique, hein, ce qu'on est en train de faire. Bon, par contre, les premiers testeurs, et c'était très difficile d'avoir les gens qui ont goûté à cette viande de synthèse. Bon, on peut dire apparemment, elle était très très médiocre. Mais il faut mettre en avant la technologie. Et ce qui est marrant, par exemple, pour la viande, au lieu de remettre en question en fait notre habitude de consommation de tous les jours, car elle implique avec l'élevage intensif, etc., et la pollution que cela amène, eh ben, on essaye de recréer de la viande pour surtout pas changer, comme depuis la nuit des temps, faisons comme avant. Et voilà. Donc on peut quand même se poser un petit questionnement sur voilà, où va des fois bien sûr le progrès. Et sinon, en dernière actu, plutôt.
Non, juste pour donner une précision, la semaine dernière on parlait de tout ça, on était ensemble, on a fait un reportage. La semaine dernière c'était la journée de la transition.
Oui, la transition
donc,
énergétique.
On a été posé nos micros, on a rencontré pas mal de gens sur la placette Ourcelle et on va vous montrer tout ça pour l'émission du 21 et pour faire le point un peu sur ce mouvement qui parle de la transition.
Exactement, et on a vu vraiment des gens intéressants, des herboristes, etc., et d'autres personnes qui parlent de nourriture crue, etc. On a vu un petit peu de tout et on pourra écouter tout ça. Dernière actu plutôt importante, le Parlement français a voté une nouvelle loi pour interdire donc les pesticides en France, dans les parcs nationaux, mais aussi pour une interdiction qui va s'appliquer aux particuliers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous sur ce plateau. Le truc est toujours marrant, mais bon, bah, c'est peut-être c'est la vie qui est comme ça. C'est que c'est qu'à partir de 2020 et 2022 pour les particuliers. Donc même si apparemment un rapport qui a prouvé la dangerosité de certains produits, d'où une orientation du zéro phyto, mais on va quand même encore attendre plus de 6 ans avant de
les interdire. C'est pour écouler les stocks.
Voilà,
Les stocks et donner le temps aux producteurs de trouver de nouvelles molécules qui pourront finalement contourner ces nouvelles restrictions. En parlant de nouveaux produits, je crois que Christelle va nous parler d'un produit nouveau. Elle a écouté attentivement la dernière émission sur la qualité de l'air et elle a voulu me préciser l'arrivée d'une nouvelle peinture.
Alors en ce moment, il y a des évolutions sur tout ce qui est peinture bâtiment donc il y a une nouvelle réglementation qui va avoir lieu et qui va être en place sur janvier 2015. Et actuellement, donc, il y a des peintures qui permettent de dépolluer l'air. Le principal polluant dans l'air, c'est le formaldéhyde. Et donc depuis 2013, des fabricants ont sorti une peinture innovante qui permet de capter ce formaldéhyde. Et donc il y a du relargage d'eau. Mais du relargage d'eau, vous n'avez pas de la buée partout.
On a une sorte de cascade sur nos murs.
C'est ça. Non, pas du tout. C'est comme tout à chacun, on sue. Plus ou moins, en effet. ça fait à peu près cette proportion d'eau dans la pièce. Et donc, le formaldéhyde est gardé dans le film de peinture et on a une efficacité sur 7 à 20 ans.
Voilà. C'est-à-dire une efficacité, la peinture arrive à manger ce polluant pendant 7 ans, c'est ça ?
Entre 7 et 20 ans, ça dépend de la finition. Si vous prenez une finition mate, satin ou velours.
Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc cette peinture, on repasse une nouvelle couche ou
Voilà. En général, vous repeignez tous les 5 à 10 ans. Donc l'efficacité est bonne sur 7 à 20 ans. Donc d'ici là, vous aurez repeint.
Et donc pas de mauvaise concentration de polluant en fait, à l'intérieur
Non. Non, puisqu'en fait,
la transformation.
C'est un polluant qui est capté dans le film.
Ok.
Voilà, dépolluer sa
plutôt pas
maison
mal.
Avec la peinture. Alors là, c'est là qu'on voit qu'ils sont forts quand même. Très bien. Moi, j'avais une petite dernière info, parce que je crois que c'est notre premier concurrent en ce moment même. Hein. C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi. En Russie. Et à cette occasion...
Attention ce que tu dis, hein. Poutine, t'écoute.
Je sais, mes heures sont comptées. Je vais être... empoisonné au polonium ou quelque chose comme ça. C'est ça d'être écouté à l'international. Donc oui, c'est ces fameux jeux qui font monter tant de doutes sur la démocratie en Russie, mais ça, je crois qu'on pourra se poser longtemps des questions, et aussi sur le respect de l'écologie à travers toutes les transformations qui ont été faites, souvent à prix d'or, c'est cette autoroute qui a ses 45 km qui sont les plus chers de l'histoire, et des choses comme ça. Bon, alors j'entends bien toutes ces informations, je ne suis pas particulièrement fan de Poutine, mais il me reste en tête cette idée où pendant pas mal d'années, je ne sais pas si ça continue pas encore, tous nos résidus de déchets qui sortaient de la Hague, de cette usine de retraitement, étaient finalement envoyés en Russie et ça semblait pas poser, la pollution ne semblait pas poser de problème à tout le monde. Donc je pense qu'à un moment, quand j'entends toute cette inquiétude, ça me fait un petit peu sourire.
Tu trouves ça hypocrite ?
Peut-être un petit peu hypocrite, oui. On est content de leur envoyer nos déchets nucléaires et nous, après, on va se poser des questions sur eux, comment ils respectent la nature. Je trouve ça toujours un peu à double tranchant.
Une petite page musicale et on se retrouve juste après.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pedra.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue de retour dans votre émission Un air de vie. Aujourd'hui, nous avons donc trois invités différents. Nous avons donc Lolita de l'ALEC 27.
Bonsoir.
Je vous laisse vous présenter.
Eh bien voilà, oui, Lolita de l'ALEC 27, donc l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Eure. J'anime le défi famille à énergie positive, donc sur le Grand Évreux agglomération.
Parfait. Nous avons donc un deuxième invité, Christelle.
Mère de trois enfants, femme active.
Alors, c'est pas pour ça qu'on l'invite.
Ah, mais que faites-vous sur le plateau?
Donc, je participe au défi famille active.
Ok. Et notre troisième invité, mystère.
Clément, enchanté.
Salut, enchanté.
Moi, je suis conseiller info énergie à Évreux, voilà, sur une partie du territoire du département de l'Eure.
Ok. Alors, on parle d'énergie, mais qu'est-ce qui s'est passé, Fred? Qu'est-ce qui se passe sur Évreux? Pourquoi on parle
alors,
de tout ça?
Alors, qu'est-ce qui se passe sur le GEA? Donc, depuis maintenant deux mois et demi, le défi famille à énergie positive, c'est ça l'appellation exacte, oui, est lancé sur le GEA et on a eu envie d'en parler pour présenter un peu cette démarche, qui est une démarche qui est... je ne sais pas, je vais peut-être te laisser présenter le début. Ou Clément ?
Bah, en fait, je voulais juste préciser avant de développer que le défi famille énergie positive, il se fait sur le GEA, mais aussi sur la CAS, donc la communauté d'agglomération Seine-Eure autour de Louviers, et aussi sur le pays Évreux-Riton, pour ceux qui nous écoutent d'un peu plus loin que d'Évreux. Voilà.
Ça veut dire qu'en fait, que tout, voilà, tous ces gens-là peuvent participer à ce défi.
Tout à fait, c'est ça. Trois territoires différents, mais c'est le même défi. Ouais.
D'accord. Pour l'heure, mais sinon, il est organisé aussi partout.
Et donc,
France.
C'est bien sûr, comme je l'ai bien compris, c'est un défi sportif en rapport avec les JO.
Exactement,
voilà.
Oui.
Exactement.
C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Ok, alors on va commencer tout de suite avec Lolita qui va nous présenter un petit peu tout ça.
Bon, alors donc, c'est pas du tout sportif.
Voilà.
En fait, le défi Famille Énergie Positive, c'est une action concrète, mesurable, massive et conviviale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, en fait, via la réduction des consommations d'énergie. Le but, c'est donc d'encourager des familles à apprendre, en s'amusant, à réduire leur consommation d'énergie donc, dans leur habitat.
Donc, c'est vraiment une incitation à la réduction de consommation, mais sur les... En fait, sur le peuple, sur les consommateurs et pas sur les gros industriels.
Oui, pour l'instant, c'est vraiment faire comprendre à chacun qu'il peut agir à titre individuel.
Que chacun, avec sa petite goutte d'eau, peut faire
un océan.
Voilà, ok, d'accord.
Et donc, on incite, on le rappelle à refaire leur toiture, à changer de chauffage.
Non, là, c'est vraiment... on essaie de montrer que simplement par les gestes, donc les éco-gestes, donc des tout petits gestes dans l'habitat, on peut déjà réduire jusqu'à au moins 20%, enfin au plus, pardon. On peut réduire entre 8 et 20% ses consommations d'énergie simplement par les gestes.
Sans tout changer dans sa maison.
Juste avec des gestes du quotidien. Donc ouais. En fait, les gestes du quotidien, par exemple, c'est quand on fait la vaisselle, fermer rapidement les robinets, ce sont des gestes comme ça.
Des petits coupes-veilles, des petites choses comme ça, vraiment des petits gestes.
Et alors, comment vous faites pour impliquer les familles dans ce genre de défi?
Enfin, au départ, oui, c'est un peu la difficulté quand même. C'est, on essaie de réunir, donc on parle du défi un petit peu partout. Ensuite, les personnes intéressées s'inscrivent gratuitement au défi, se réunissent en équipe de 5 à 10 foyers. Et puis donc, se lancent dans l'aventure de décembre à mai, avec donc pour objectif de réduire de 8% leur consommation. Ils ont pour cela donc un logiciel dans lequel on rentre chaque mois ses relevés de consommation, ce qui nous permet de voir donc quelle est l'évolution en fait.
D'accord. Et c'est quelque chose qui a été créé par l'ALEC ?
Non, du tout. En fait, à la base, donc ça vient de l'étranger. Ensuite, ça a été repris par l'ONG prioritaire et c'est diffusé dans toute la France, soit par les EIE, les espaces info-énergie, soit par d'autres organismes.
D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis en France ?
Ça va faire maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 5 ans.
D'accord. Et c'est à chaque fois des défis qui ont lieu de manière annuelle
Oui, c'est sur 6 mois. C'est pendant la période de chauffe, en fait, puisque c'est là qu'on consomme le plus, vu que c'est avec le chauffage. Donc, c'est là où c'est le plus intéressant de voir les économies qu'on peut faire, vu que le chauffage, c'est 60 à 70% de la consommation d'énergie. Donc, c'est vraiment le point sur lequel on peut le plus agir, quoi.
Donc, en fait, on comprend que ça intéresse les gens parce que ça touche en fait directement à leur porte-monnaie.
Ouais.
On peut le dire, oui, parce que ça. 8 à 20% sur une facture à l'année, ça doit représenter quand même plutôt pas mal.
Ouais, c'est jusqu'à 200 euros, quoi.
On a une idée de manière globale de la somme totale qui peut être économisée, enfin qui a été économisée nationalement, des choses comme ça ?
Oui.
Parce que 8 à 10%, après, c'est vrai qu'on se rend compte au niveau énergétique, mais au niveau
financier, en moyenne, voilà. ça fait du 200 euros. Après,
par famille,
tout dépend de l'énergie qu'on utilise, etc. Mais ça fait en moyenne 200 euros d'économie.
Par famille.
Par foyer d'environ 4 personnes, un truc comme ça, quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce que justement, dans le fonctionnement, là, les gens qui habitent le département de l'Eure, comment on fait en fait pour participer à votre défi et comment déjà on peut être au courant de ce défi ?
Alors, être au courant, ça marche beaucoup au bouche à oreille. Après, on s'arrange aussi comme là pour en parler, donc soit par la radio, soit par les médias quoi, en général. Et puis pour s'inscrire, c'est tout simple. Donc l'inscription est gratuite, tout est gratuit. Ça se fait via le site www.familleaenergiepositive.fr.
Donc le site est déjà sur notre site.
Parfait, c'est parfait ça.
Et donc l'inscription, donc là c'est terminé pour le défi
Oui, pour cette on a eu des inscriptions jusqu'en janvier, mais bon là c'est un peu tard vu qu'on est déjà à la moitié du défi, ça fait un peu tard, mais pour l'année prochaine il n'y a pas de souci.
Et donc là pour ce défi, alors pour le GEA, ça représente combien de familles et ça représente combien d'équipes ?
Alors, sur le GEA, on est à 90 inscrits, donc 90 foyers inscrits.
D'accord.
Et ça fait 12 équipes.
Ok. Et après, équipes. Au niveau départemental, vous avez des chiffres plus larges, non ? Je ne sais pas, sur les autres bassins, Clément ?
oui, je reviens. Sur le Pays Avrerie.
Verneuil, hein, tu nous parles.
Sur le Pays Avrerie-Ton, on est à 40 familles. Donc environ 120 personnes, réparties en équipe. Alors c'est des équipes, on n'a pas encore parlé, mais du coup c'est des familles qui se regroupent entre elles en équipe. Mmh. Donc plusieurs familles dans une même équipe.
Et ça sert à quoi d'être en équipe en fait ? Comment on le comprend ?
C'est plus sympa. En fait ça permet vraiment aux gens de créer une émulation parce qu'elles se rencontrent pendant le défi et du coup...
Et en fait on est une équipe qui essaie de battre une autre équipe dans la réduction de consommation, c'est ça ?
Ouais, okay. C'est ça.
Ah ouais, donc c'est vraiment une forme de jeu. Je pense que les enfants ça doit plutôt les motiver, non ?
Ouais aussi.
Parce que moi on m'avait raconté un exemple, hein, c'était une personne qui l'avait mis un sablier tout simplement dans sa douche et puis les enfants ils s'amusaient à jouer le Lucky Luke, quoi, ouais. Celui qui a terminé sa douche avant que ça soit terminé. Ça c'est vraiment un côté sympa et l'effet pour les parents il est direct.
Du coup c'est rigolo parce que les enfants se prêtent au jeu assez facilement et même peuvent devenir presque flics pour les parents et du coup rattraper les parents sur des petites erreurs qu'ils font. Du coup c'est hyper sympa familialement, c'est assez intéressant.
Même si ça
aussi,
peut
quoi.
Faire un peu peur de dire presque flic là.
Non mais c'est pour ça que j'ai dit presque. Hein, c'est pas...
Mais là aussi, c'est... 30 secondes, arrête.
Là aussi c'est l'intérêt de le faire en équipe, voilà. C'est pour la même raison quoi. dans l'équipe, on va un peu se charrier, puis on va se dire le copain, s'il voit que j'ai fait tant, ouais, ça marche un petit peu, quoi.
Et donc, est-ce qu'il y a des grandes étapes dans ce défi? Parce que là, il dure quand même très longtemps, ce défi.
Ouais.
Vous, là, vous parlez, donc le principal, c'est surtout pour la période de l'hiver à cause du chauffage.
Alors, les grandes étapes, ça va être plutôt au niveau des événements, donc des soirées qu'on peut faire. On fait une grande soirée de lancement, qui est un peu l'inauguration du défi. Ensuite, on a l'événement de mi-parcours qui a lieu là pour le GEA, justement, mercredi qui vient, mercredi 12. Et on a l'événement de clôture où là, on fait le podium final, où on élit les meilleurs du défi, quoi.
Les meilleurs acteurs, ceux qui ont mieux réussi. Ouais. Alors, vous avez déjà un record dans la région? Est-ce qu'il y a un record comparé aux chiffres nationaux?
Ouais,
est-ce qu'on est plutôt des bons élèves?
Ils ont un record de consommation d'eau au mois de décembre.
Il n'y a pas de record particulier. Les meilleurs de l'année dernière avaient fait 27%. Donc, ce qui est très bien pour une équipe, hein, 27% d'économie. Voilà, cette année, sans dévoiler grand-chose, on est à peu près dans les mêmes chiffres.
D'accord. Mais alors, juste pour quand même se faire une idée, est-ce que bon, 27% de réduction, mais par rapport à quelle référence en fait? Parce que si c'était une personne vraiment qui consommait comme
c'est
un porc, on peut dire.
Par rapport à l'année de référence en fait, l'année précédente, par rapport aux factures de l'année précédente.
Donc les gens qui savent qu'ils vont s'inscrire, toi l'année d'avant, ils.
Oui, parce qu'en fait, à la base, je me dis, les personnes qui sont sensibilisées en fait à ce genre d'action, ils devaient l'être déjà avant que vous existiez,
oui,
que ce genre de défi existait. Donc, ça devait
être
déjà des personnes qui avaient réfléchi à une certaine approche de leur impact sur l'environnement. Ouais. Et justement, ce n'était pas eux qui consommaient déjà le plus. Donc, si on pouvait voir d'autres personnes, peut-être que l'impact serait encore plus grand.
Ouais. Après, là, c'est un pourcentage de réduction aussi.
Okay,
c'est pas une consommation.
Ouais. Oui, non, mais non, c'est pas grave. Je voulais juste dire que du coup, c'était aussi l'intérêt de faire le défi sur plusieurs années. C'est que souvent, la première année, effectivement, on va attirer que les personnes qui sont déjà relativement sensibilisées. Ce qui est très sympa aussi, ils ont quand même des choses à apprendre, ils font quand même des économies. Et comme en général, ça se passe bien, le bouche à oreille fonctionne. Et les années suivantes, on a des personnes nouvelles qui arrivent et qui, elles, ne sont pas forcément dans le circuit des personnes déjà sensibilisées. Ce qui donne un intérêt à aller toucher, entre guillemets, des nouvelles personnes, quoi.
Christelle.
Ouais, j'ai une amie qui a dit je participerai pas parce que j'ai déjà réfléchi à faire des économies d'énergie, donc je pense que j'ai rien à apprendre.
Ah oui, tout simplement. Mmh. Pas besoin d'aller voir ailleurs, je le fais.
J'ai déjà fait.
D'accord.
Oui.
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu à votre amie?
Donc on peut toujours faire mieux.
Oui, c'est vrai, parce qu'elle aurait pu être un peu plus
mais
curieuse.
J'ai pas dû être suffisamment convaincante.
Donc il y a quand même des gens qui font ces bonnes actions aussi, sans participer à ces défis, mais en tout cas, on peut quand même mettre en avant le côté ludique de.
Non, et puis le réel intérêt, c'est vraiment le suivi de ces consommations. Ça permet vraiment de suivre chaque mois ou chaque semaine sa consommation, et c'est très intéressant.
Et moi, je voulais juste savoir, tu parlais, Clément, de l'intérêt de faire ça sur plusieurs années. Mmh. Vous avez un recul là-dessus? Parce que c'est la première année que le défi a lieu sur le GEA.
Sur le GEA, oui. Sur le Pays Évreux-Riton aussi. Mais sur la CASE, c'est la troisième fois.
La CASE, c'est la troisième année.
Et donc, vous
avez observé... on a des équipes qui participent pour la troisième année consécutive. Il y en a une qui a gagné l'année dernière. Donc qui participait l'année dernière pour la première année, donc qui est partie pour sa deuxième année, qui est très bien partie vu qu'elle est deuxième encore cette année, quoi. Ils arrivent encore à faire des économies. Et même eux n'en reviennent pas, quoi. Ils se disaient déjà l'année dernière on a fait le maximum, on était à 20 et quelques pour cent, là on fera pas mieux. Finalement si, quoi. Ils arrivent encore à creuser encore un peu plus.
Oui, mais sans devenir complètement névrosé
de
la consommation. Ouais.
Après, ça paraît quand même énorme. Non, mais ça paraît énorme quand même, parce que 27% la première année, tu rajoutes autour de 20%, c'est que tu arrives en gros en deux ans à 40% d'économie d'énergie. Enfin, pour tous les gens, c'est énorme. Enfin, ça me paraît énorme.
Sachant que c'est ponctué quand même avec le climat, parce qu'on peut se dire, là, il fait plus chaud, donc on consomme moins. Mais finalement, le logiciel, il est proportionné avec le climat. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, notamment cet hiver où il fait beaucoup plus doux, évidemment, on va consommer moins en chauffage. Mais du coup, on va pondérer ces résultats par rapport à la rudesse du climat sur l'année précédente pour être sûr qu'on compare bien des choses qui sont comparables, quoi.
Ouais. Très bien. On va peut-être faire une petite pause musicale.
Je suis d'accord avec toi. On va s'écouter un très bon morceau de David Crosby. Avec Stephen Steele et Graham Nash. Super. Un morceau qui s'appelle Déjà Vu. Mmh.
épaules.
If I had ever been in before, I would probably know just what to do.
Don't you?
If I had ever been in before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal
with all of you. And I feel like I've been here before. Feel like I've been here before.
Bienvenue de retour dans votre émission Un art de vie, votre émission qui traite de l'environnement à l'échelle locale. On revient donc dans notre sujet du jour, le défi famille, donc un défi qui a été lancé aux enfants et aux parents donc, de la région afin de consommer moins, de consommer plus intelligemment. Et justement, nous avons avec nous Christelle qui a participé à ce défi.
Alors, qui participe.
Je tiens à dire qui participe
suite,
toujours, oui, je tiens à dire c'est pas terminé.
Kevin, on a deux participants au défi.
Tu participes
bah, oui.
Tu participes. Vous participez. Bon,
alors, les organisateurs participent, c'est très bien. Je représente l'équipe WhatsApp et qu'on va gagner.
Non, c'est l'équipe Wateco qui va gagner.
Ouais, tiens, au niveau du nom, vous voyez la différence.
Bon, ça alors, sonne mieux, hein, Wateco.
Moi, je fais partie de Vilain Petit Canard qui ne participe pas, qui n'était pas au courant du défi énergie. Voilà.
Ok. Prochaine.
Alors, Christelle, comment avez-vous découvert déjà ce défi? Pourquoi vous avez participé à ça?
Alors, comment je l'ai découvert? En fait, c'est mon voisin d'à côté qui m'a envoyé un petit mail qui m'a dit « est-ce que ça t'intéresse ?» Et du coup, j'ai été à la réunion de lancement au mois de décembre et on y allait chacun de notre côté
parce qu'il y avait donc ce voisin qui n'était pas là finalement. Et on s'est retrouvés à plusieurs. Je vois Flora qui était toute seule, elle a intégré l'équipe. Didier qui était tout seul, il a intégré l'équipe. Et finalement, on a créé un petit groupe parce que donc c'est Lolita qui a organisé le lancement. Il y a eu des jeux et ça fédère et ça crée une équipe.
Ok, mais vous, pourquoi en fait, pourquoi y participer ? C'est, ça vous a interloqué, interrogé ? Vous avez trouvé ça
Pas interloqué, je crois que j'ai une sensibilité environnementale. Je me rappelle, il y a 15 ans, quand on s'est installé à Évreux, moi j'arrivais de Suède, donc ça faisait un an que je vivais là-bas. On vivait tous avec un vélo, et dans Évreux, c'est impossible de circuler en vélo, parce que y a des voitures partout, il n'y a pas de trottoir, et ça s'est quand même amélioré depuis.
Ouais, c'est vrai, ça s'est amélioré. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que vous en avez fait de votre vélo ?
Je suis toujours en vélo, il est devant le local là, de l'émission.
Ah bah bravo, bravo, c'est bien.
Et donc, oui, alors au-delà de cette expérience suédoise, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en ayant 3 enfants, on ait envie de se lancer dans un défi le jeu
Je pense qu'au départ, ouais, c'est une sensibilité. Après, on a des enfants qui nous sensibilisent aussi par l'école, ils doivent avoir des bons professeurs. et puis après, bah, je pense que voilà, il faut faire des gestes pour la planète. On a eu une discussion tout à l'heure. C'est pas se flageller en se disant il y a des trous dans la couche d'ozone, etc. Je trouve que justement ce concept-là, c'est sympathique. C'est convivial, on rassemble du monde et en faisant des gestes écologiques, on crée aussi du réseau social. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que je vois dans notre groupe, il y en a qui ont 30 ans des petits-enfants, 60 ans aussi des petits-enfants, mais avec une génération supplémentaire. Et chacun donne son point de vue et il y a une émulsion qui se crée et ça, c'est vraiment sympa.
Donc, c'est intergénérationnel, c'est ouais. Aussi multisocial.
Oui.
Ouais. Il y a de tout, donc on voit des personnes qui habitent des logements sociaux, ouais. Des personnes qui sont plutôt bien loties, qui participent à ce genre de défi.
Ouais, vraiment tout, des propriétaires, des locataires, des jeunes, des vieux, tout.
Bon, bah, bon, que des bons points pour l'instant, en tout cas.
C'est un super club de rencontres. Mais
moi, je suis d'accord, c'est vraiment un club de rencontres. Vrai. Ça fédère et ça crée du réseau social autour de l'environnement. C'est positif.
Oui, sur des pratiques qui sont plutôt positives. Après, derrière ça, enfin, derrière ton raisonnement, ça, c'est finalement ce qui t'a donné envie de rester, parce que le fait que ce soit convivial, tout ça... Tu ne le savais pas au départ.
Non.
Je veux dire, après, c'est vrai que pour moi, il y a quand même un côté un peu... moi, quand j'ai vu les premières invitations, le côté défi, je me suis un peu posé la question de comment c'était géré. Et moi, ce qui m'a personnellement plutôt plu, c'est que dès la première réunion, parce que je crois que la première réunion, c'était à la mairie d'Évreux.
Oui, tout à fait.
On était déjà là-bas. Et dès le début, on a senti cette volonté de quelque chose de très souriant, à la fois autour des quiz, mais même le mode de fonctionnement, avec des choses faites avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de carton.
Comment
et...
ça, avec 3 bouts de ficelle ?
C'est
des heures et des heures.
Voilà. Non, mais ça sort un peu des fois des grosses machines où on pourrait voir, on n'a pas le PowerPoint de 2 heures avec les questions, on a des trucs pour appuyer pour donner la réponse. Et il y a un côté, on a eu le droit au PowerPoint, mais voilà, pour une présentation générale. Mais derrière, voilà, on est tout de suite parti dans le convivial et dans le souriant. Parce que moi, la première réunion, je l'ai faite avec un micro dont j'avais tout enregistré. Je suis rentré chez moi, on n'entendait rien. Hein, parce que le bruit ambiant était insupportable.
Non, mais ça, c'est répété dès la réunion de lancement. C'est que on reste avec des éco-gestes et on n'est pas en train de changer sa toiture pour que ce soit moins énergivore. On n'est pas en train de changer son chauffage. C'est vraiment des gestes où on coupe peut-être le robinet 5 minutes avant. On éteint les lumières, comme disait Lolita tout à l'heure, on met des coupes lumières pour des quoi ?
Des coupes veilles.
Des coupes veilles. on va se projeter dans la technologie. Tu parlais tout à l'heure de technologie. Pour le coup, c'est des technologies qui doivent être intelligentes, mais pas pour se stresser. Le but, c'est pas de se stresser non plus. Et on le ressent vraiment. T'as raison, Fred, c'est ça.
Oui, donc la forme d'intelligence, c'est vraiment apprendre à faire déjà avec ce qu'on a, quoi. Et,
c'est ça.
Voilà, c'est consommer finalement intelligemment. Donc à cette première réunion, vous y avez été avec vos enfants, votre conjoint, vous êtes
toute seule.
Toute seule. Et comment vous avez convaincu le reste de la famille à participer à ce défi ?
Bah, Moi, je donne l'exemple. S'ils ont envie de me suivre, ils me suivent. Je n'ai pas imposé. Maintenant, je leur ai expliqué. Les enfants, de toute façon, ils s'adaptent très facilement. Si je suis en train de faire la vaisselle et que ça coule alors qu'il n'y en a pas besoin, c'est eux qui vont m'éteindre le robinet. On a notre petit sablier pour compter combien de temps on est sous la douche. Bon, il n'y a que mon mari qu'il faut que je dresse encore un petit peu, mais sinon...
il a passé le cap. Ouais. Et justement, au niveau des enfants, vous avez peut-être remarqué au niveau de l'apprentissage qu'il y avait une facilité en fait, d'apprentissage. Mais jusqu'à un certain âge, non ? Est-ce que vous avez aussi des gens qui sont dans l'adolescence qui participent à ces projets ?
Ouais, on a beaucoup de parents qui nous disent « Oh là là, mais moi j'ai mes adolescents, ça ne va pas être possible, ils explosent. »
C'est un peu l'âge critique, quoi.
Ouais, c'est l'âge problématique.
Ouais, okay.
Quand ils sont petits, ça va. Et c'est vrai que quand ils sont à l'âge de l'adolescence...
Ils ont perdu l'enthousiasme à ces jeux.
C'est plus compliqué, quoi.
T'as du mal à leur expliquer que la douche, c'est pas un quart d'heure, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Il y a ça et les chargeurs de téléphone. C'est les gros problèmes des parents.
D'accord, pourquoi les chargeurs de téléphone qu'ils
ils
ont...
restent branchés, en fait. Un chargeur branché, même s'il n'y a plus de téléphone au bout, ça consomme.
Ça consomme. Et ça consomme beaucoup.
Ça consomme quand même. Et ça consomme
exactement.
Beaucoup.
On revient avec ce qu'on avait dit au début.
Non seulement
les
ça consomme, mais ça ne sert à rien.
Voilà,
parce qu'en fin de compte, comme les coupes veilles, c'est tout un ensemble de petites consommations qui sont dans la maison, qui ne sont pas des consommations de confort. Parce que moi, le fait que ma télé soit en veille chez moi, ça ne change rien. Par contre, le fait de l'éteindre, bah, ça change quelque chose. Et c'est des... enfin, je veux dire, le fait de participer au défi, ça ne nous fait pas retourner au 19e siècle, bien loin de là. Ça fait plutôt... voilà, c'est des gestes où bah, on éteint un certain nombre de choses dont on n'a pas besoin, donc je trouve ça plutôt positif.
Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, on se donne des proportions. On parlait tout à l'heure, un bain, 150 litres ouais. d'eau dépensée pour se laver aussi bien qu'avec une douche où c'est 50 à 80 litres d'eau. Et si on se lave...
Sauf la douche de plus d'un quart d'heure qu'on
oui,
parlait
oui.
précédemment.
Alors ça, c'est une douche de 5 minutes.
La douche de plus d'un quart d'heure, prenez un bain.
Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais ça donne des proportions. On sait que quand on tire la chasse d'eau, c'est entre 8 et 10 litres.
Oui, la chasse d'eau, c'est encore plus impressionnant au niveau
oui.
de la consommation.
Oui. Alors là, par exemple, moi, j'essaye de placer des WC secs. Mais là, j'ai une vraie sensibilisation à faire auprès de ma famille parce que j'arrive pas à le placer.
Ah mais faut être encore plus explicite, c'est-à-dire des WC secs dans votre maison. Vous habitez en maison, en appartement ?
Oui, en maison.
En maison, oui.
En maison. Et ben, au lieu d'avoir un WC avec de l'eau pour tirer la chasse d'eau,
dans votre maison ?
Voilà. On a un WC sec, c'est-à-dire que vous prenez une poubelle de 150 litres, vous mettez ben voilà votre cuvette de WC pour être tranquille et confortable. et en fait, vous, au lieu d'avoir de l'eau, vous utilisez de la sciure.
La sciure de bois.
Il n'y a aucune odeur. C'est génial.
Mmh. Bah, de toute façon, je crois que dans la prochaine émission du 21, on aura une spéciale toilette sèche.
Mais par exemple, ça, ah. chez vous...
une deuxième partie qui va être assez...
On en parlera. Mais vous, par exemple, là, vous l'avez placée où, votre toilette
Moi, j'en ai pas. Parce que mon mari n'est pas pour...
Oui, parce qu'il faut quand même trouver un endroit en plus, parce que le local généralement des toilettes est déjà trop petit, on va pas en mettre une deuxième. C'est une initiative un peu dure à faire quand même.
Pour une famille de 5, il faut sortir la poubelle une fois toutes les semaines. Donc c'est un peu ce côté sortir la poubelle
qui est moins agréable. Voilà. Ouais, je comprends.
Enfin, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille.
Bah, oui, puis là, les toilettes sèches, on est vraiment au niveau encore au-dessus. Quoi.
Ouais, là, on
n'est pas du tout dans le cadre du défi, parce que le défi, il ne demande pas de...
Non, on ne va pas jusque-là.
Oui, non, mais c'est de l'eau, mais là, on est vraiment... Alors, à la limite, c'est ça, c'est une fois qu'on a mis le doigt dans le défi, on a envie d'aller plus loin. Ouais. Mais sur le défi, on n'est pas... le fait de participer au défi ne demande à personne ce genre de mesure.
Non,
qui
on
n'en
est pas là.
Le défi, justement, le principe, c'est aucun investissement. Et donc, les 8, 10, 12% d'économie, c'est sans aucun investissement. Voilà. Après, on peut, il y a des petits trucs quand même, les éco-mousseurs sur les robinets, les petites choses qui coûtent pas cher. Mais sans investissement, on peut quand même déjà faire un certain nombre de gestes.
On peut déjà réduire, voilà, ouais, sans investir, que ce soit, oui, d'accord. Et donc, ça me fait penser, parce que cette histoire de toilettes sèches, c'est vraiment quelque chose qui permet pas vraiment de trop de ramener les gens. Et j'avais eu, par exemple, il m'est arrivé une expérience où j'avais été... donc en vacances et c'était un système avec une location, roulotte, etc. Et la personne s'était voulu un petit peu, si vous voulez, un peu écolo dans l'âme, etc. Ce qui fait que vous avez la roulotte en fait en plein air et tout. Mais finalement, on s'était retrouvé avec une mini poubelle, en fait, un mini tonneau où il avait avait mis un sac en plastique dedans et de la sueur de bois en étant très fier de lui, en disant regardez, j'ai des toilettes sèches. Sauf que bon, arriver à s'asseoir sur un tonneau, déjà vous aurez très mal aux fesses, en plus ça dépend de la taille du tonneau. C'était inconfortable au possible, c'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que des fois, ça, ce genre d'initiative, ce genre de geste que montrent certaines personnes, qui doivent être sûrement des pseudo-écolos, enfin moi c'est plus du marketing pour pouvoir mettre ça sur sa plaquette de vente de location, c'est un truc qui tue tout, et qui tue tout le discours, et ça ramène vraiment les gens en disant ah ouais, ok, ouais, t'es l'écolo, mais bon, reste dans ta forêt, et voilà, va.
Là pour le coup, on s'éloigne vraiment du défi.
Hein. Oui, on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour le défi
pas
énergétique.
Du tout, absolument.
Moi, je vais juste revenir pour toi, Christelle. Qu'est-ce que ça a changé au quotidien alors ce mois et demi de défi? Tes enfants ne parlent plus? Alors, non, mais dans la maison, dans le quotidien.
Dans le quotidien, moi, je pense que sincèrement, ça a rien changé. On est un peu plus attentif. Ce qui m'a vraiment aidé. C'est le logiciel, parce qu'on met des chiffres et on peut donner des valeurs à ce qu'on consomme. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on consomme plus ou moins, mais là, pour le coup, on se dit, en gaz, on a consommé tant, en eau, on a consommé tant, et en faisant des petits gestes, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, 8%, qu'est-ce que ça représente en litrage d'eau, ou en gaz, en électricité? Et ça, je crois que c'est vraiment le logiciel qui nous aide à quantifier ce qu'on consomme ou pas. Et oui. Quand j'ai fait le tour de deux, trois membres de l'équipe, c'est ce qu'ils m'ont mis en avant, c'est de pouvoir quantifier et c'est une vraie aide.
Sais que personnellement, le fait de faire un relevé de mes compteurs tous les mois, bon, bah, personnellement, sauvé la vie, parce que j'ai découvert une fuite majeure sur un élément de ma chaudière. J'ai consommé 30 mètres cubes d'eau chaude en un mois. Donc,
t'as perdu.
J'ai perdu. Je vous le dis tout de suite, j'ai perdu. J'ai perdu le défi, Famille Énergie, je reconnais. Et d'ailleurs, mon équipe ne me parle plus. Et non, alors, et bon, ça m'a permis d'éviter d'attendre trop longtemps avant de me rendre compte de cette fuite. Mais derrière ça, c'est vrai que le fait d'avoir un relevé, ça nous interroge vraiment sur nos consommations. Mmh. Et derrière, on a une facture. C'est vrai que la facture de gaz, la facture d'électricité, il y a toujours les petites courbes, toujours les petits graphiques avec les bandes et tout ça. Mais derrière ça, on a un peu de mal à se rendre compte de la réalité de notre consommation. Et le fait d'avoir ce relevé mensuel, je trouve que ça remet vraiment en question et ça matérialise un petit peu, parce que l'électricité, c'est quelque chose qu'on a du mal à quantifier.
Ouais.
Le gaz aussi. Mmh. Là, je vois par exemple, j'ai une fuite d'eau chaude, je sais que j'ai perdu 30 mètres cubes d'eau, donc 30 mètres cubes d'eau, on se rend compte.
Ouais.
J'ai sans doute aussi perdu du gaz, mais alors la quantité, c'est beaucoup plus difficile à se rendre compte de ce que ça représente exactement. Et donc, je trouve que l'avantage, c'est que ça matérialise nos consommations et nos actions, plus que l'idée de faire au départ des économies.
Et comme tu dis, en fait, on va le faire mensuellement, ces relevés. Alors qu'une facture, on les reçoit tous les six mois. Et on regarde juste combien ça nous coûte.
C'est
alors
vrai.
Que là, mm-hmm. on va chercher à analyser. OK, on a tel relevé pour l'électricité, donc tous les mois. Ça veut dire quoi? Alors, sur quel équipement on a vraiment consommé et comment est-ce qu'on peut abaisser?
Parce qu'en fait, là, ce logiciel, vous, dans le défi énergie, vous le distribuez en fait à toutes les familles. Et chaque famille à domicile a ce décompte de ses consommations.
Il est sur le site internet, en fait. Une fois que vous, ces personnes sont inscrites, à un service elles peuvent internet, se connecter sur leur espace.
Avec votre compte, identifiant. Ouais. Et... OK, d'accord.
Oui, ça permet vraiment de se poser des questions sur ce mois-là, pourquoi j'ai consommé plus.
Ouais. C'est ça.
Voilà. Du coup, on se prend au jeu et on essaie de consommer moins. Et,
voilà.
et rien qu'un truc tout simple, on va chercher où est le compteur.
Ouais.
On ne sait pas forcément où est son compteur. Alors,
je savais déjà.
Bon, ça arrive à certaines personnes, c'est vrai. Je vous propose une petite coupure musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Knows I failed. Now Said Billy Price, I think you better hit that old lonesome, lonesome trail. I got to leave.
Bienvenue sur Principe Actif, toujours dans votre émission Un air de vie. Le sujet du jour, on vous le rappelle, c'est le défi famille depuis tout à l'heure. Donc on a eu l'interview de Christelle de sa participation au défi. Mais
On a eu les résultats pendant la pause et fini 14e. Et
c'est Wateco qui va gagner.
Nous avons aussi avec nous Clément qui va nous parler des éco-gestes, en fait, de tous ces petits gestes que vous pouvez faire chez vous. Sans forcément vous acheter une éolienne, etc. Et qui vous permet on en a parlé, on va le redire, et qui vous permet d'économiser et de changer un petit peu votre consommation.
Justement sur les toilettes, il y a une petite astuce qui est pas mal. Quand au lieu d'investir sur les toilettes sèches, de mettre une brique dans son réceptacle d'eau derrière les toilettes.
Une brique.
Ou une bouteille d'eau remplie d'eau. En fait, chaque élément qu'on va mettre, ça va remplacer l'eau qui pourrait être là. Et en fait, en général, il y a beaucoup trop d'eau dans les bacs des toilettes.
Ouais, d'accord. Donc en fait, au lieu d'avoir la chaise d'eau, petite chaise d'eau pipi et la chaise d'eau caca, là, en gros, voilà. Diminuez votre réservoir d'eau et ça va être suffisant.
C'est ça en fait. On est beaucoup à avoir des toilettes d'ancienne génération qui n'ont pas la double chasse. Et donc, si on ne veut pas investir, quel est le principe du défi, on remplace ça par une brique. Et par exemple, une brique, ça fait à peu près un litre. Donc si on met une brique, à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on économise un litre d'eau.
Un litre d'eau potable.
Et donc faites le calcul sur une année, combien ça fait, mais on arrive vite à une tonne d'eau. Quoi.
Ça reste mon plus gros chagrin, toute l'eau potable qui part dans nos toilettes.
Ouais,
je trouve ça fou.
Donc ça c'est un premier geste à faire, donc on trouve une brique, on le met
dans son réservoir. Si c'est pas une brique, ça peut être du coup une bouteille d'eau, quelque chose, n'importe quoi.
Je crois que Lolita préférait quand même la bouteille d'eau, parce que la brique avait une légère tendance à se désagréger.
Oui, enfin...
Alors ça dépend, après on peut parler du type de brique.
Voilà,
du matériau, effectivement.
Alors tu fais quel mélange de briques, de terre et d'argile pour ta brique?
Donc alors, ok, il y a la brique pour réduire sa consommation de chasse d'eau, mais
par exemple,
qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, il y a beaucoup de gestes simples qu'on connaît pas mal. Typiquement, utiliser du bois sec pour le chauffage, il va mieux chauffer. Purger ses radiateurs, on connaît tous. Mettre un écomousseur sur son robinet. Couper l'eau pendant qu'on se lave par exemple, ou pendant qu'on fait la vaisselle, enfin voilà, de ce genre de choses. Utiliser des bacs, etc. Mettre des appareils en heure creuse, notamment on a souvent le ballon d'eau chaude, mais il y a plein d'appareils aussi qu'on peut faire tourner en heure creuse, la machine à laver, le sèche-linge, il y en a plein.
C'est-à-dire en fait en heure creuse le soir, c'est ce que vous dites?
Ouais, c'est ça, en fait il y a
l'option pour les voisins, en appartement.
C'est vrai que ça fera pas économiser de l'énergie, c'est vrai qu'il faut le préciser.
Ça fait pas gagner de défis, hein.
Effectivement, mais ça fait des économies pour le coût financier. Ça marche aussi quand même.
Okay.
Au niveau de la cuisson, des trucs tout bêtes, mais mettre un couvercle sur la casserole quand on fait chauffer de l'eau, l'eau va chauffer beaucoup, beaucoup plus vite et vraiment c'est palpable. On peut chronométrer, c'est directement vérifié. Voilà.
Ouais, on gagne 30%.
Et pour ceux qui ont des plaques de cuisson électrique, c'est de couper la plaque au moins 5 minutes avant parce que.
Ça dépend le type, mais surtout celles en fonte, effectivement, vous pouvez les couper bien avant, ça continuera à chauffer. On peut économiser comme ça.
C'est vrai aussi pour les fours.
C'est vrai aussi pour les fours, ouais, complètement. À l'inverse, du coup, on peut avoir sur les frigos, par exemple... Éteindre son frigo avant d'aller se coucher. Non, plutôt que de décongeler un aliment en dehors du frigo, peut-être le prendre s'en occuper quelques heures à l'avance et le mettre dans le frigo. Comme ça, il va aider à générer du froid sur la partie frigo. Et au lieu de refroidir la maison, qu'on va devoir réchauffer après. Donc ça fait double économie.
Faire dégonger dans le frigo. Ça, ouais.
Donc en fait, ça serait oui, ça c'est un petit geste intelligent. C'est tout ce qui est en fait congelé, en fait les faire décongeler dans son frigo et d'éviter aussi de mettre ces plats chauds qu'on a préparés pour le lendemain, de les foutre dans le frigo parce que ça va tirer à mort d'énergie.
Ok. Tout à fait. Et voilà. Après, il y a pas mal de choses aussi, des petits appareils, donc micro investissement, on va dire, des petits minuteurs, alors qui vont être utiles pour des appareils qui sont assez consommateurs, typiquement la box internet. C'est vraiment la box internet, si on la laisse en route tout le temps, c'est,
jamais.
C'est 100 euros par an, quoi. Enfin, c'est vraiment énorme. On peut mettre une minuterie, en fait.
Attends, une box internet, on consomme 100 euros
c'est ça.
Par an, on a 100 euros de...
Elle tourne tout le temps. Elle tourne tout le temps.
Ouais, mais sur les box, on a aussi le téléphone, en plus de la télé, et ça coûte tout.
Effectivement. Alors, du coup, on a tous des téléphones portables aujourd'hui. Donc ça peut servir aussi. Après la nuit, on téléphone jamais beaucoup non plus.
Oui, on pense pas à la débrancher quand on va se coucher, c'est vrai.
Bah non, et puis c'est aussi pas hyper confortable parce que du coup, pour la remettre en route, il faut attendre 5 minutes avant que vraiment le réseau revienne, etc. Donc en fait, il y a un petit appareil qui s'appelle un minuteur, tout bête, qui est une prise qu'on branche sur la prise et après on branche l'appareil sur le minuteur. Et donc on peut programmer en fait avec des petits boutons directement l'heure à laquelle la prise se coupe et à laquelle elle se remet en route. On peut programmer plusieurs plages sur la même prise. Et donc, on peut dire, par exemple, ma box, elle se met en route le matin et pendant 2 heures, de 8h à 10h, par exemple. Elle se remet en route à 16h et puis elle se coupe à minuit, voilà, par exemple.
Et donc ça, c'est vraiment... toi, Clément, tu trouves ça bien comme, par exemple, comme objet?
Ouais, alors je trouve ça bien. Après, il faut faire attention à l'utilisation quand même parce que ça a quand même un coût aussi. Ça a une empreinte environnementale aussi.
C'est-à-dire, c'est quoi le coût?
C'est autour de 15-20 euros pour avoir un appareil comme ça.
Mais donc il est rentabilisé dès la première année.
Sur la box il est rentabilisé, sur d'autres appareils c'est moins le cas quand même quoi. Mais donc il faut faire attention à l'utilisation, il ne faut pas utiliser pour tout et n'importe quoi.
Oui, parce qu'on pourrait dire il suffit d'éteindre soi-même, mais finalement c'est un outil qui permet, parce que finalement même si les gens veulent l'éteindre, après on a un manque de volonté et puis même...
c'est pas évident d'y penser tout le temps.
On n'y pense plus, après, si on n'a pas été éduqué comme ça, on ne le fait plus et... Donc finalement, ça devient un investissement plutôt nécessaire.
Ça permet d'automatiser le geste et du coup de le rendre régulier, quoi. Mmh. Ouais.
Sur des choses comme ça qui ne servent pas la nuit. En sachant, c'est vrai que le soir, en allant se coucher, on ne peut pas faire la tournée de toutes les prises qu'on va devoir débrancher, les boutons qu'on va devoir appuyer. Tout ça, c'est vrai que ça devient un peu...
Donc donc alors les minuteurs, l'histoire du frigo, le four, on fait le rôti pas cuit, on va le couper avant, etc. Tout ça, ça va
par exemple aussi, on mange cru, sinon ça marche aussi.
Ça marche, mais voilà, on cru, on veut consommer. Qu'est-ce qu'il y en a comme
pas mal de gestes aussi auxquels on pense un peu moins. Par exemple, ouvrir les volets le matin, parce que des fois on part, on n'a pas le temps. Voilà. Donc c'est une petite contrainte aussi, mais du coup il y a deux choses que ça va apporter. Ça va apporter de la lumière déjà. Donc par exemple le soir, en journée, ça va éviter d'allumer la lumière, donc éviter une consommation électrique sur les ampoules. Et ça va aussi générer ce qu'on appelle un apport solaire. Donc la lumière en fait elle apporte de l'énergie et le fait qu'elle traverse la vitre, ça va chauffer une partie de la maison. Alors effectivement, si on est plein nord et qu'on est en plein vent...
On pourra rétorquer qu'en fermant les volets, on va éviter peut-être une plus grande déperdition de chaleur, non?
Comment ça?
En fermant les volets.
Ah oui. Donc c'est pour ça que si on est côté nord, plein vent, on va peut-être pas le faire. Oui, et s'il fait pas beau. Mais si on est côté sud et qu'il y a un petit rayon de soleil, vraiment, ça peut générer de la chaleur, quoi.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nettoyer une VMC. Alors, on ne croit pas forcément, mais du coup, ça a deux avantages aussi. Un avantage, du coup, hygiénique. Parce qu'on va mieux renouveler l'air de la maison. Donc les polluants, on a parlé, formaldéhyde et autres, on va mieux les évacuer. L'humidité aussi. Donc l'humidité, ça va jouer sur la qualité du chauffage, dans le sens où un air humide, il est beaucoup plus compliqué à chauffer qu'un air sec. Voilà. Sachant qu'au niveau humidité relative, dans une maison, il faut être entre 40 et 60% pour être dans de bonnes conditions, quoi. Pas un air trop sec, sinon pour la santé, pour les bronches, c'est pas génial. Un air trop humide, c'est développement de champignons,
moisissures,
de moisissures sur les parois.
C'est pas problématique sur la santé. Voilà. Et ça, niveau des filtres, c'est vraiment quelque chose de basique, mais qu'il faut faire. Enfin, tout le monde connaît ça, même avec leur propre voiture. On parle de consommation, mais ça, on les a avec tous les filtres. Exact. Personne s'en occupe ou attend de faire une révision chez le garage, mais on peut énormément réduire sa consommation déjà de gasoil ou d'essence en nettoyant tout ça. Christelle?
Oui, j'avais une question là sur sur justement tout ce qui était humidité. Ouais. On dit qu'il faut ouvrir 5 minutes tous les jours sa fenêtre. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ça dépend en fait si on a une VMC ou pas. Donc, si on a une VMC qui est en bon état, c'est pas forcément la peine. Après, ça n'empêche pas de le faire. On sait que psychologiquement, c'est quand même agréable aussi de sentir l'air et de renouveler l'air d'une pièce. Mais du coup, si la VMC est bien dimensionnée, c'est-à-dire qu'elle a un débit suffisant pour renouveler l'air d'une maison, et qu'elle est en bon état, qu'elle n'est pas encrassée, du coup, ça va largement suffire.
Et ouais. C'est vrai que tout ça combiné, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de tout faire et se retrouvent dans des situations compliquées. Ouais. Par exemple, ils sont dans une situation, dans un lieu qui va être humide. Ils vont investir finalement pour des nouvelles fenêtres, double vitrage, etc., qui vont être plus aux normes que les anciens bâtis. Et finalement, cette technologie-là va déprécier leur maison, leur appart, parce qu'en fait, ça va augmenter leur taux d'humidité, parce qu'avec, ils n'ont pas mis en complément une VMC, et ainsi de suite.
C'est
en fait, c'est quand tout est combiné, après, les gens, à un moment donné, ils osent plus, on se sent un peu perdu, quoi. Hein,
c'est vrai. Exactement, c'est vrai que ce n'est pas des problématiques qui sont faciles à appréhender, et tout est lié. Tu l'as très bien dit, et c'est vrai pour le chauffage, la ventilation, l'isolation, etc., les volumes chauffés, enfin voilà, tout est lié, donc il faut faire un petit peu attention à tout. C'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'on ne peut pas deviner non plus tous les gestes qu'il faut faire.
On ne peut pas tout prévoir à l'avance, et après voilà. Acheter ce qu'on veut. Puis
Kevin, je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir qu'on rende l'antenne.
J'avais encore une liste, mais je reviendrai.
On a déjà fait, c'est déjà la deuxième émission. C'est justement le conseil que je voulais donner à tous. Hein, le meilleur moyen de toute façon de prolonger cette émission, c'est d'aller à la rencontre de l'espace Info Énergie à Évreux, qui est, je crois...
Ouais.
Boulevard Georges Chauvin.
Enfin, c'est ça, ouais, juste à côté du conseil général.
Ou alors à la Lake 27 à Louviers.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce qu'au-delà de ce défi, c'est aussi le moyen pour chacun de réfléchir à sa consommation et de rencontrer ces organismes-là qui sont là pour aider chacun dans ses économies d'énergie et aussi dans sa vie quotidienne.
Ouais, juste un petit mot du coup sur l'espace Info Énergie pour dire que du coup, on est un service public ouvert à tous et qu'au-delà du défi, n'importe qui effectivement peut venir nous voir, et sur tout le territoire de l'Eure, il y en a aussi dans toute la France, sur tous les départements.
Voilà, vous êtes là pour conseiller tout le monde, pas seulement ceux qui participent,
et pas seulement
à ce
sur
défi.
Les éco-gestes, également aussi sur le chauffage,
il faut le dire, gratuitement. Hein, c'est vraiment
tout à fait, c'est un service public qui est gratuit.
Jérôme n'est pas là pour prendre votre défense, mais il a eu recours à vos services l'année dernière, il a vraiment été très satisfait de la qualité.
C'est vrai qu'on a un retour très positif sur vous
qui nous a été donné. Bah, c'est pour ça qu'on les réinvite.
Hein. Exactement.
Voilà, l'émission se termine.
Voilà, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci de votre venue.
Merci à vous.
Alors,
merci.
Deux mots. Un mot pour dire que demain à 12h30, on retrouve Gonzalo et un privé à Babylone. Et demain après-midi, sur Évreux, il y a une grande enseigne de culture qui se ferme, et plutôt fermée dans la tristesse et la douleur. Ils ont choisi de fermer avec des concerts. Donc, je crois qu'il y a quatre groupes qui vont succéder dans l'après-midi, et je pense que c'est un bon moyen d'aller montrer son soutien aux gens qui fermeront qui tireront la devanture pour la dernière fois demain soir. Voilà.
Okay.
Donc on pense à eux et on essaiera d'y aller.
Ciao ciao tout le monde, encore un gros coucou à Nantes et à tous ceux qu'on connaît. Gros bisous et à très bientôt, toujours sur Principe Actif. Ciao ciao.
Au revoir.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Un air de vie.